Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, nous avons la chance, le bonheur et le mérite de recevoir Karine Mirmont pour son livre La vie de forêt qui est sorti il y a peu de temps, un mois ou deux, disons, à l'Atelier Contemporain, un excellent éditeur. Et c'est aussi un excellent livre que nous vous recommandons chaleureusement, l'équipe d'Aligre FM et de La vie est un roman. Et c'est Jean-Michel Yeuillotte qui va mener l'interview de Karine Mirmont. À toi la parole, Jean-Michel.
Bon, alors, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, j'aimerais lire quelques courts passages qui sont à la fin du livre de Karine. Bon, voilà. Les mots, ces réservoirs, ces dépôts, contiennent toujours plus que ce que nous y mettons quand nous parlons ou pensons ou lisons ou écrivons. Libère, c'est quoi ? J'appris, je découvris, je m'étonnais. Tant de correspondances, tant de résonances, une merveille de mots, une chance de sens. Libère, du latin. Ce fut d'abord la partie de l'écorce où circule la sève, la partie vivante de l'écorce. Par analogie, c'était devenu une idée, être de concision libre, sans entrave, aller où l'on veut. Par l'usage, c'était devenu aussi une chose, car cette partie vivante de l'écorce présentait des qualités physiques permettant d'inscrire plus facilement et rapidement que sur la pierre, la terre ou le tissu, des signes pour les conserver et les transmettre. On écrivit sur écorce avant d'écrire sur papyrus. Alors, cette chose, on la nomma à partir de libère. On l'appela livre. Livre, lire, écrire. Errance, divagation solitaire, forêt qui surgit par la parole. Et William Shakespeare, des voix dans les arbres, des livres dans les ruisseaux, des leçons dans les pierres. Alors, l'idée du livre de Karine, je pense qu'il répond à un protocole assez soigneusement défini, qui est le protocole du pistage. Le pistage, donc, qui consiste pour les chasseurs à pister des animaux, pour les tuer, si on le sépare de sa fonction, disons, utilitariste du monde de la chasse, reste très intéressant du point de vue de l'intention et de l'attention. Voilà. Et le pistage consiste à observer, à écouter, à voir, à sentir, à tâter, à sentir sous ses pieds. Et là, on se retrouve à avoir affaire à une quantité considérable de signes qui vont, si on est suffisamment patient, suffisamment attentif, qui vont nous renseigner sur la forêt et qui surtout vont laisser la forêt venir à nous, aussi bien d'ailleurs les végétaux que les animaux.
Je ne sais pas quoi dire. qu'est-ce que je peux dire ? Je pourrais lire moi aussi, mais alors plutôt le début. C'est possible ça ?
Bien sûr.
Parce que ce sera éclairant, peut-être. Le début de vie de forêt, vie au pluriel, et non pas la vie de forêt. J'arrive, c'est pas grave. Le début, c'est ça. Quatre bêtes qui courent dans le grand pré. Fuit le bruit de la traque sur le versant d'en face. Un petit cerf ferme la marche. Il y a eu un coup de feu quelques minutes avant. Pas de gelée ce matin. Les sols sont encore verts. Mélange vert et jaune, roux, orange. Noisetiers font des buissons de petits troncs et de branchages larges et roux. Sapins et épicéas impassibles, mais impression de vert plus sombre qu'à la belle saison. Grand érable aux branches recouvertes d'un lichen céladon, donc clair. Extrémité de branchettes rousses, pousse de l'an prochain ? Il faudrait vérifier. Être dessiné par des mousses vertes sur les troncs et les plus grosses ramures, lichen céladon sur tout le reste. Piquets et ficelles, du parc à vaches, esselés eux aussi. Paysage seul. Toujours seul, peut-être, le paysage. Dure plus longtemps que nous. avant et après soi, le paysage, le pays, la géographie, l'espace, dès que seul on écrit, ça parle. Je pourrais continuer, est-ce que je continue ?
Continue.
Les sorbiers entièrement recouverts de lichen engrappent le long des branches comme des fruits. Pluie fine mais serrée trace des lignes, goutte rien, multitude de gouttes avec intervalles, train de gouttes entrecoupées de rien depuis le ciel, wagons d'eau sur leurs rails invisibles, impression de trajet de gouttes, trajectoire plus ou moins verticale ou carrément de biais, selon le vent ou la position des nuages, c'est décembre. Au début de ce livre, il y a cette envie, ce désir de raconter la forêt que je connais depuis des années, 30 années environ. Puis il y a tous les freins, les obstacles, les arguments qui devraient me détourner de cette idée, de ce désir. Que sera le texte ? Un récit, un essai, un roman ? Il faudrait que la forme de l'expérience d'écrire ce désir de forêt fût déjà là pour que cela rassure tout le monde, moi, l'éditeur, et toi, vous, lecteur. Que je vous dise, il était une fois, ne vous inquiétez pas, on sait où l'on va, nous allons emprunter quelques chemins habituels. Et puis non, je me fie à moi, à mes sens, regarder, sentir, toucher. L'œil me semble capital, l'oreille aussi. Et puis le toucher du pied, les appuis de la marche, les odeurs, les sons, tout cela mélangé. Tous les sens mis en branle par l'expérience d'être, dire, imaginer. Reprenons l'expérience à son départ, à l'envie, au désir. Regardez la forêt, cette forêt, partir de là, marcher, écouter, sentir. L'endroit, la maison, les passages, les arbres, les herbes, les animaux, les lectures, les archives, les visages, toutes ces présences qui ouvrent des récits, des histoires.
Très bien. Est-ce que tu pourrais expliquer quand même le... on pourrait dire, dans l'entrée chronologique en matière, qui est cette vision qui commence un peu comme une vision théâtrale, récurrente, par la fenêtre, vue par la fenêtre de ta maison. Les cerfs qui viennent peu à peu, qui reviennent, leur comportement.
Alors, l'expliquer, il se trouve que effectivement au pied de cette forêt que je connais bien depuis longtemps et que j'arpente depuis longtemps, un peu effectivement comme si je chassais, sauf que je ne chasse pas moi des animaux, mais plutôt des impressions, des signes, des visions, on va dire. Il se trouve donc au pied de cette forêt, il y a une maison et que... parfois, c'est à partir de la maison que je regarde. La maison devient une sorte de mirador. Et en effet, par les fenêtres, même fermées d'ailleurs, si l'on prête attention à tous les signes les plus infimes ou les plus manifestes, on peut voir énormément de choses parce qu'il se trouve que la forêt qui est juste là à côté, dans cette forêt, il y a énormément d'animaux sauvages, et dont des cerfs, des biches, des faons, des chevreuils, des martres, des renards, il y a même des lynx, enfin bon, des sangliers, bon. Et donc, il y a ça. Et il y a aussi ce qu'il y a souvent en bas d'une forêt de montagne, ou parfois en haut d'ailleurs aussi, des pâturages ou des prés. Et il se trouve que là, au pied de cette maison, en face, comme ça, il y a une sorte de paysage bucolique. On dirait un tableau ou une scène de théâtre, effectivement, ou une succession de tableaux. Et donc, j'ai commencé par installer, effectivement, ces tableaux-là, à la fois parce que pour à la fois m'amuser comme un... Enfin, c'est pas que de l'amusement du tout, puisque c'est un parti pris. On voudrait dans les livres qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable, avec du suspense, un début, un milieu, une fin, etc. Et en fait, moi, j'aime faire attention à des choses infimes où on a l'impression qu'en fait, il ne se passe rien, mais il se passe énormément de choses à partir du moment où on y fait attention et pour peu qu'on trouve éventuellement la forme de les dire, puis de les lire après. Et ces prés, je reste longtemps à les regarder, à regarder la lumière, le vent, et je le décris. Alors évidemment, je pense à plein de gens qui ont écrit avant moi, notamment à Francis Ponge, qui a écrit un texte fameux qui s'appelle « La fabrique du pré », par exemple, et à plein d'autres. Et je me laisse entraîner, comme plein d'autres écrivains, j'imagine, par l'écriture elle-même et l'expérience de regarder. Et il se trouve qu'il se passe des choses assez incroyable, non seulement dans les herbes, parce qu'il y a des insectes qui passent, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des ombres, des lumières, des cris, des... et puis parce que tout d'un coup, il va y avoir un cerf qui passe là, qui s'arrête, qui est dans un état... Enfin, des histoires se produisent, voilà, il se produit quelque chose et j'essaie de les consigner sans démagogie, sans facilité, sans mièvrerie, en essayant de trouver... une forme qui m'étonne quand je l'écris, en espérant qu'elle étonne celui qui lit.
Alors je trouve personnellement qu'elle est assez étonnante et inhabituelle, dans la mesure où elle colle à ton propos, c'est-à-dire que c'est les phrases finissent par se succéder, mais également se superposer, avoir en elles des changements qui sont comme des changements de saison. La précision du vocabulaire est comme si on arrivait avec une loupe grossissante sur d'infimes détails. Alors c'est l'attention. Et là, effectivement, le fait de les nommer va les cerner, va les mettre en valeur, etc. etc. Donc ton livre est exactement, on pourrait dire, le homologue à ton propos et à la forêt. On a vraiment cette impression de feuilles d'arbres, commençant l'air, puis c'est l'automne, voilà, l'automne
qui s'accumule,
etc. Et là, oui, j'ai d'ailleurs pensé à un texte, parce que j'ai de fortes chances que vous ne le connaissiez pas. C'est un texte, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans la préparation, c'est un texte du poète vénitien Andrea Zanzotto. Alors, Andrea Zanzotto, c'est en gros... C'est un poète qui a écrit en italien, qui a écrit dans plusieurs variantes de dialecte vénitien à la demande de son ami Fellini. Ça, c'est le monde de l'Italie. C'est-à-dire qu'un homme de cinéma peut demander à un poète d'avant-garde de lui faire des textes pour des films. Et il le fait. c'est presque impensable en France. Tu vas comprendre pourquoi j'ai retenu ce texte. Alors, ce texte est assez particulier parce que... Alors, je ne vous le lirai pas en vénitien, parce que je ne connais pas les accents du vénitien, ni la prosodie. Je le dirai en français, ce qui n'est pas très, très, très facile. D'autant qu'il est écrit sur deux colonnes, l'une étant comme un commentaire de l'autre. Alors, j'introduirai parfois le commentaire, parfois pas, en essayant de suivre la mise en page. Fil, vif d'arbre, rue. Jamais vu, doux et perfide, aiguilles en pupilles, en dévouement, en fracture dévouée, aiguilles, arbres, enclins à enquêter, ruisselets de bordure en bordure, partage, en courant, ce qui, de nous-mêmes, délibérément, tu avais élu en règle d'art l'art des rues et des coteaux et des bordures, arbres dont je me prive. Je suis dans l'immense intense, abondance d'arbres ou, d'arbres adieux, arbres, aubes, dans le végétable, tissu glial. Les cellules gliales, c'est l'environnement protecteur des neurones, je l'indique. Gelée royale, cérébrale, arbre, simple écorce, de traces, de renards et de hordes, tu m'informes. Soirée à poignée dans la soirée. Soirée, écrit la longue titubance, emporte l'hibernée, l'espérance, avec en tec... C'est l'enveloppe des graines. Avec en tec gelé, tissu glial. Brillance défectueuse, manchotte débutante, étranglée, entassée. Avancée, chatouillie. Ressources rétrocédées, mises en doute. Oh, promouvoir au comble de coupe nette, ô arbre, qui vous mesurâtes en aiguille sylvestre pour pousser, élargir. Dans les essences portées en apic, les coupures en apic dans le suc ligneux parmi les éblouissements vespéraux. Depuis toujours, la route est tout. Je mets route, circulation interdite. Verbe et voile, vos yeux barbelés, enfoncés et poussés. Je retiens tout. Je recommande, au combien, Holzwege, route, expérience, ombre, épuisée de serres en sylve. Qui veut cette jeune broussaillité ou flamité, soit en demi-ton, demi-lumière, demi-saut, demi-danger d'incendie. Vieillesse induisante, célébration, consistante laryngée, presque chalumeau.
Je dois réagir ou
si tu veux.
Non, bah, évidemment, il est question d'arbres, d'écorces, de forêts, de routes même. Il en est aussi question dans cette forêt. Donc ça fait écho, évidemment. Après, la démarche est très différente parce que c'est plus un texte, on va dire, entre guillemets, plus suggestif, évocateur, là où...
C'est ce qu'il voit par la fenêtre.
Oui, c'est ce qu'il voit par la fenêtre, mais moi, je fais plus un récit qu'un poème, entre guillemets, traditionnel, on va dire, en tout cas. Même si parfois, moi, il m'arrive de lire de la prose dans laquelle je trouve une poésie plus intéressante que la poésie elle-même. Mais bon, voilà. Donc, la démarche est différente, mais c'est très intéressant d'entendre ce texte. Mais ça me paraît à la fois proche par les passerelles qui peuvent s'établir et loin, en fait. Mais je sais pas, là, il faudrait que je me remette à lire des bouts. Alors, je sais pas si c'est ce que tu veux.
Tu peux lire des bouts, bien sûr.
J'en sais rien. Je savais pas trop comment on allait... Tu vois, par exemple, je tombe là-dessus. Alors, vraiment. Là, ici, une forêt qui se déploie sur une suite de petites montagnes percées par des sillons d'eau perpendiculaires, tranchées d'eau passante, torrents installés dans la forme du sol et des pierres agencées par le flux et le froid. Ici, dans la forêt ou près de la maison, l'eau, tout le temps, nuit et jour, en toute saison, coule, descend. Seule l'intensité du flot et du son varie selon le volume d'eau apporté par la pluie ou la neige, ou soustrait par l'évaporation ou le gel, mais bruit de l'eau incessant, basse, continue de ce paysage. Un jour de juillet, je demande à ma fille Jeanne, qui a l'oreille absolue, qui n'a pas besoin de deux notes pour relativement les situer et les nommer, je lui demande donc d'écouter le ruisseau et la cascade et de nous dire si elle entend des notes et lesquelles. Alors elle dit « La cascade est plus aiguë et sonne en do ou do dièse en haut. En bas de la cascade, ça sonne en sol ou sol dièse. Le ruisseau, c'est sol si ré do, grave, aigu, plein de notes selon que tu marches, que tu t'arrêtes, que tu te concentres sur le ruisseau de plus bas ou exactement là où tu te tiens. Beaucoup de sonorités qui changent selon la distance et l'attention que tu portes à chaque endroit, comme une symphonie méga riche en sons. Wagner devait écouter les ruisseaux, par exemple. Et puis, autre exemple sur le pré, par exemple. En tous les cas, là, de la maison, face au grand pré, on voit le vent. Et on le voit comme le cliché, l'image ou métaphore du moutonnement de l'eau et là, de l'herbe, le vert qui moutonne en blanc. Les innombrables tiges fines, majoritairement vertes, traversées et portées, dansées par l'air soufflant, se plient en arc de cercle et en groupe, successivement des groupes de tiges arquées qui ondulent et donnent de loin, d'ici, l'impression de bêtes en troupeau qui se déplaceraient un peu vite, moutons courant à petits sauts réguliers de droite vers la gauche.
Ben, ce sera peut-être le moment, pour les messieurs en cabine, de mettre le morceau de musique numéro 2, de Giacinto Scelsi, Waxuktum. Thank you. Ok. Donc, est-il arrivé de pister des animaux particuliers ?
Pardon ?
Est-il arrivé de pister des animaux particuliers ?
Bah oui, plein. Toutes sortes d'animaux dans cette forêt. Pister, je ne sais pas, moi j'ai pisté.
J'ai pisté parce que...
Pister, tu veux dire être marché et savoir qu'on est derrière un animal précis.
Oui, alors éventuellement, ça peut consister simplement ou, à attendre qu'il se manifeste.
Regardez, oui, mais il y a plusieurs situations, voilà, ça dépend tout à fait des saisons. Il y a une saison qui est très particulière, c'est l'automne et le brame du cerf, parce que exceptionnellement, le cerf se signale en criant, et donc on arrive à le détecter.
Dans les documents sonores, pour la cabine, les documents A et B, enchaînés.
Voilà.
Merci bien.
Voilà, donc c'était donc le cri, le fameux brame du cerf. On l'entend beaucoup la nuit, mais on peut l'entendre aussi dans la journée, quand c'est vraiment la période, le pic du brame pendant une ou deux semaines. Et en fin de journée, début de journée, on l'entend. Et donc, il se signale, ce qui n'est pas du tout le cas le reste du temps. Et on peut beaucoup plus facilement l'approcher. On l'approche aussi par l'odeur, parce qu'en fait, on le sent. En fait, en général, c'est lui qui nous sent à 300 mètres, et donc on n'a aucune chance quand il nous sent. Ça, c'est vrai de plein d'animaux, évidemment, de tous les cervidés, mais les chevreuils, les sangliers, bon, voilà. Donc, j'ai approché je ne sais combien d'animaux dans des circonstances très différentes, jusqu'à détecter des traces sur le sol que l'on suit en sachant qu'on suit tel animal ou tel groupe d'animal dans un sol qui est meuble parce qu'il y a eu de la pluie et qu'il y a des marques et qu'on sait qu'elles sont fraîches, jusqu'à évidemment la neige qui permet de pister aussi très facilement certains animaux quand on est patient. Oui, ça m'est arrivé. Il y a plein de cas. Et puis, il y a ma chasse depuis la fenêtre de la maison, entre guillemets, si j'ose dire, c'est-à-dire cette fameuse observation que je peux faire parfois, notamment la plus impressionnante, qui est celle de certains cerfs qui reviennent assez régulièrement dans ce coin-là. Et dont, d'ailleurs, dans le texte de Vie de forêt, je me demande parfois si ils n'ont pas identifié depuis des années que s'approcher des maisons, du hameau et du village, ce ne serait pas un endroit plus sûr que d'être à certains moments en pleine forêt. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut les voir très, très bien. Je connais plein de gens du village qui sont habitués à voir tel cerf au-dessus de chez eux, etc. Mais si tu veux, d'ailleurs, je peux lire un extrait.
Volontiers.
De ce moment-là, depuis la fenêtre. Avec le temps, la maison est devenue mon mirador favori, un poste de guet, certes trop confortable, en apparence trop facile, et pourtant qui en vaut la peine si l'on se plie à quelques règles. Silence, concentration, absence de lumière artificielle, regard aiguisé, mouvements peu nombreux et en retrait des fenêtres. Le matin d'un 19 septembre, il se passe ce qui se produit très souvent depuis quelques années. Je regarde par la fenêtre au cas où, et je vois un vivant, un bougeant, oiseaux, insectes, mammifères, bergeronnettes, bouvreuils, geais, hérons, buses, chevreuils, écureuils, biches, faons, cerfs, renards, bondrés, apivores. Ce matin du 19 septembre, le jour est vraiment levé depuis quelques minutes à peine et je regarde au cas où. Je regarde cette fois-ci tout à droite de mon champ de vision, au-delà du groupe de sapins où ça brama fort et beaucoup avant-hier soir, hier soir et cette nuit, un bref coup d'œil là, je ne sais pourquoi, ça se fait comme un sixième sens, un instinct qui vérifie ou un réflexe qui a détecté un mouvement, ça se fait sans ma volonté. Et j'aperçois une silhouette animale sur quatre pattes qui se déplace assez vivement. Elle sort des feuillages, à découvert. C'est un cerf. Il avance vers le pré devant, pressé, comme s'il avait été dérangé ou comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Il rejoint le chemin qui sépare le premier du second pré, bifurque vers sa droite et descend dans le deuxième pré, de dos un instant, puis disparaît dans les arbres à gauche. Il va sûrement traverser le chemin plus loin à couvert pour monter dans la forêt. Pas pu le voir de plus près, pas pu regarder sa tête, détailler ses bois, jauger la couronne et les poils, leur épaisseur sur l'encolure, la blancheur de certains ou pas. C'est alors que ça bouge à nouveau. Ça sort depuis le même groupe d'arbres, et un peu vivement aussi, mais plus près. Serre. Se dirige tout de suite le long du chemin, juste là, en face. Beau bois, large et régulier, avec extrémité claire. Porte sa tête bien droite, dressée, marche sur le chemin, s'arrête, repart. J'ai le temps d'attraper les jumelles. Il regarde sans arrêt vers ici, vers la maison, comme pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal, qu'il y a la maison, certes, mais c'est comme si elle ne l'inquiétait pas plus que cela. Comme s'il la connaissait, tout comme il connaît le terrain autour, il connaît le territoire, il regarde vers ici pour vérifier que ça ne bouge pas, que ça ne sent pas trop fraîchement l'homme, qu'il peut continuer son parcours. C'est un douze corps. On compte les pointes des bois d'un côté, souvent c'est symétrique, alors on multiplie par deux, et quand c'est asymétrique, on dit 12 irréguliers, par exemple. On note si la raison de l'asymétrie est un bois cassé, ou si c'est un signe de vieillesse ou de faiblesse, quand les bois ravalent, comme s'ils se rétractaient, dépérissaient. La fourrure de son encolure est plus épaisse que sur le reste du corps, signe d'un cerf peut-être assez âgé, ou simplement état de son encolure pendant le brame. Sa fourrure est mouillée, probablement les traces de la sueur, de l'effort, les cris, les combats, l'adrénaline, les ébats. Il sent. Il regarde la maison puis devant lui, renifle, avance sans précipitation. On peut suivre sa progression, ce corps de profil sur les herbes et les buissons, ce corps derrière les pierres, les piquets à vaches, les arbustes, des bordures du pré, le cerf en travelling. Je bouge le moins possible. Je me demande si les vitres des fenêtres laissent passer l'image de l'intérieur de la maison ou si, comme souvent, c'est plutôt l'image de l'extérieur qui se reflète dans les vitres, le ciel, les arbres, ou si encore c'est la lumière du dehors qui prend le pas sur celle du dedans et ainsi empêche celui qui regarde de l'extérieur de détecter celui qui voit de l'intérieur. Peu de lumière dans la cuisine, pas d'éclairage électrique où je me trouve, pas de soleil à cette heure. Je suis dans la pénombre alors que lui est dans la lumière du jour qui vient de se lever. Il prend soin de ne pas s'approcher de la maison davantage. Il l'allonge à la distance qui lui semble sage. Quelques dizaines de mètres, il a longé toute la façade sud. Il tourne vers la gauche, mouvement qui épouse la forme du premier pré, le triangle et aussi le tracé de la maison, l'angle sud-est, puis la façade est. Son parcours évite l'eau, le gros ruisseau qui descend après la cascade. Il veut rester de ce côté et monter dans la forêt. On le voit encore, juste ces bois qui se déplacent quand le sol est plus bas. Tout son corps de profil puis de dos quand il monte, comme s'il se dirigeait vers la cascade, bifurque sur sa gauche, passe derrière un sorbier, disparaît.
Bien. Alors, pour rester dans le même esprit, mais pas tout à fait, et revenir un peu, disons, à l'idée de pistage, je vais lire un extrait du traité de la chasse de l'auteur grec antique Xénophon. Voilà, sur le lièvre. Alors, il ne spécifie pas vraiment sur quel genre de terrain il est. En fait, il y a des généralités. Il parle des différentes sortes de terrains. Il parle également des terrains boisés. Voilà. Donc, il s'agit bien sûr d'une chasse au lièvre, donc, qui est tracée et traquée par des chiens. Les traces du lièvre restent longtemps en hiver à cause de la longueur des nuits. Peu de temps en été par la raison contraire. Cependant, en hiver, on ne les sent pas le matin, car il y a du givre de la glace, car le givre, attirant la chaleur par sa force propre, la retient en lui et la glace la congèle. Alors les chiens ont les narines engourdies et ne peuvent pas sentir, quand ces gelées ont lieu avant que le soleil ou le progrès du jour les dissolve. À ce moment, les chiens sentent et l'odeur en s'évaporant devient sensible. Elle disparaît aussi sous une forte rosée qui l'entraîne en terre. Les pluies d'orage, qui se produisent par intervalles, en entraînant les odeurs dans la terre, les rendent difficiles à sentir jusqu'à ce que la terre soit séchée. Les vents du sud font plus de mal encore, ils les mouillent et les dissolvent. Les vents du nord, au contraire, les concentrent et les conservent, à condition qu'elles n'aient pas été dissoutes auparavant. Au printemps, saison tempérée, les odeurs sont bien nettes, sauf si la terre, en floraison, embarrasse les chiens en confondant les odeurs de la bête avec celles des fleurs. En été, les odeurs sont faibles et pleut et peu nettes, parce que la terre brûlante neutralise la chaleur qu'elles contiennent, car cette chaleur est légère et les chiens ont moins d'odorat en cette saison, parce que leurs corps sont alanguis. En automne, elles sont nettes, car de toutes les plantes que produit la terre, celles qui sont cultivées sont récoltées et celles qui sont sauvages ont séché de vieillesse, en sorte que les parfums des fruits ne gênent pas en se mêlant aux fumées de la bête. En hiver, en été, en automne, les traces sont la plupart du temps droites mais embrouillées. mais embrouillés au printemps. Car les lièvres s'accouplent en tout temps, mais surtout en cette saison. C'est pour cela qu'errant les uns avec les autres, ils laissent des traces embrouillées. Le fumet du lièvre, qui gagne son gîte, dure plus longtemps que quand il vagabonde, car en allant au gîte, il fait des arrêts, tandis qu'il va rapidement quand il est en course. Dans le premier cas, la terre s'imprègne de son odeur, dans le second, elle n'en est qu'effleurée. L'odeur est plus forte dans les endroits boisés que dans les cantons découverts, parce qu'en courant et en s'asseyant, il touche une foule d'objets. Pour prendre les traces du lièvre, il faut mettre les chiens dans les terres cultivées, en commençant par le haut. Pour les lièvres qui ne viennent pas dans les cultures, on les trouve dans les prés, dans les vallons boisés, dans les cours d'eau, dans les pierriers, dans les lieux boisés. Quand le lièvre part, ne criez pas, de peur que les chiens follement excités ne reconnaissent difficilement la piste. Quand il est découvert par les chiens et poursuivi, il traverse parfois des cours d'eau, fait des crochets, se blottit dans des ravins et des terriers, car il a peur non seulement des chiens, mais encore des aigles qui enlèvent les levreaux jusqu'à ce qu'ils aient un an, quand ils traversent les collines et les dieux dénudés. Ils sont pris par les chiens courants. Les plus vite sont les lièvres de montagne. Ceux de plaine le sont moins. Ceux des marais sont les plus lents. Ceux qui errent dans toutes sortes de terrains sont difficiles à prendre à la course, car ils connaissent les raccourcis. Ils courent très vite dans les montées et dans les lieux plats. Dans les terrains inégaux, leur course est inégale. Ils courent mal dans les descentes. Poursuivis, c'est dans les terres remuées qu'ils sont le plus visibles. S'ils ont du rouge dans leur pelage et à travers les chaumes à cause du reflet. Ils sont visibles aussi dans les sentiers et les routes qui sont plates, car le brillant de leur robe réfléchit la lumière. On ne les voit pas quand ils se retirent dans les roches, dans les montagnes, dans les pierriers, dans les lieux boisés, à cause de la ressemblance de couleurs. Voilà.
Alors le lièvre, il y en a quelques-uns dans cette forêt. Ça m'est déjà arrivé d'en croiser un en ayant l'impression de croiser le lapin de Lewis Carroll, oui, parce qu'il montait. Moi, j'étais en train de descendre sur un chemin. J'arrivais du haut de la forêt, puisque c'est une forêt de montagne. Et je vois un truc arriver. J'ai cru que c'était un chien, justement. Et en fait, c'était un lièvre qui s'est arrêté, qui s'est carapaté ensuite. Mais le lièvre n'est plus chassé dans ces forêts depuis assez longtemps. Ça, c'est la première remarque. Et deuxième remarque, dans cette forêt des Vosges, on ne chasse pas avec les chiens. Parce que les chiens effraient beaucoup trop les animaux et les gros animaux qu'on chasse à l'approche et doucement et qui sont sauvages, parce qu'après il y aurait tout un débat sur la chasse, ce qu'elle est aujourd'hui, sachant qu'il y a chasse et chasse, donc il y a des chasses qui sont vraiment devenues des chasses industrielles que moi j'appelle pas chasse mais plutôt de l'élevage d'animaux pour les abattre. Et puis, il y a la chasse réelle, c'est-à-dire on part et puis on ne sait pas ce qu'on va trouver, puisque le principe, justement, c'est un peu l'inconnu et quelques efforts d'observation pour tomber éventuellement sur un animal qui va éventuellement être tué, sachant que moi, je ne chasse pas, mais que je marche avec mon compagnon souvent. En tout cas, ça m'est arrivé souvent, qui, lui, chasse à l'approche, tout doucement, sans chien. Donc, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de conditions comme ça d'effrayer les animaux, sauf au moment des battues. Il y a quelques battues par an, mais il n'y a toujours pas de chien. Donc, c'est ce sont des circonstances très différentes. Après, les feintes qui sont évoquées par Xénophon des lièvres, quand on commence à connaître certains animaux, on voit qu'il y a plein d'animaux qui font des feintes. Les sangliers sont extrêmement intelligents, par exemple. Les cervidés aussi, mais les sangliers sont encore plus perçants. Et récemment, je discutais dans une émission de radio, d'ailleurs, qui s'appelle Postface, il y a deux semaines, avec un auteur qui vient de faire paraître un livre un peu avant Vie de forêt, qui s'appelle Histoire naturelle, et qui parlait des carpes. Et qui disait que les carpes, c'était ce que je ne savais pas du tout. C'est très malin, une carpe. Et quand elle a été attrapée avec une ligne de pêche, elle est capable d'aller casser la ligne à l'angle d'un caillou dans l'eau pour se libérer. Ce que je ne savais absolument pas. Donc les feintes, il n'y a pas que les lièvres qui font des feintes. Ils ont tous des feintes.
J'ai connu des feintes chez les cafards.
Ah oui, oui, quand même.
Alors les cafards, j'ai habité à un moment donné au-dessus d'une boulangerie. Alors, il venait par la tuyauterie et tout ça, par le chauffage, par des tas de trucs. Et je n'arrivais jamais à les surprendre. Ils percevaient sous les vibrations, je ne sais pas, etc. etc.
Ils se carapataient, oui.
Alors, je me suis dressé un peu moi-même à contrôler ma respiration, à contrôler mon pas, à m'imaginer cafard. Alors, je ne sais pas du tout comment on pense un cafard. Et j'ai pu surprendre les cafards quand je voulais, pratiquement.
Ouais,
ils approchaient et ils ne fuyaient plus.
Très bien. Un bon principe de chasse.
Il y en avait des centaines.
Oui, oui, par
c'était
contre.
C'était effrayant. Voilà. Oui, un bon principe de chasse. Alors, Il y a un autre point que j'aimerais, aborder. Généralement, traditionnellement, on oppose le monde animal et le monde des humains. Je dirais qu'il y a deux questions. La première et la deuxième. Il y a d'abord l'idée qui me semble spécieuse du monde animal. Je pense que je vais lire quelques extraits d'un ouvrage de Jean-Christophe Bailly là-dessus. Il n'en parle pas directement dans les passages que je vais lire, mais il parle de la rencontre, du face-à-face homme-animal. Non pas avec le monde animal, mais avec les mondes animaux. Les mondes d'animaux différents, qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas le même comportement, qui n'ont pas... Voilà. Alors, c'est juste cet effet de... Le regard est une sorte de puits incompréhensible qui ne nous est pas accessible. Si on abandonne son anthropomorphisme, d'abord, on ne comprend pas l'animal qu'on a en face de soi. Alors, c'est juste des extraits de phrases hein, allant dans ce sens. C'est comme si l'on glissait à la surface d'un monde métamorphosé, empli de frayeurs, de mouvements effarés, d'écarts silencieux. Tant de penseurs à travers les âges ont fait une toile de fond pour mieux pouvoir spécifier le règne de l'homme, alors qu'il m'a toujours semblé qu'elle devait être pensée pour elle-même comme une autre tenue, un autre élan et tout simplement une autre modalité de l'être. Or, ce qui m'est arrivé cette nuit-là, et qui sur l'instant m'a ému jusqu'aux larmes, c'était à la fois comme une pensée et comme une preuve, c'était la pensée qu'il n'y a pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. C'est tout.
Très bien. Voilà.
Cette question de la limite entre à partir de la rencontre, la limite entre le monde animal et le monde humain, j'aimerais évoquer Claude Lévi-Strauss. Donc, dans l'ouvrage de M. Baptiste Morisot, qui s'appelle Sur la piste animale, hein, qui est un ouvrage très intéressant sur le pistage en lui-même, voilà ce que écrit Baptiste Morisot. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss soutient dans une page célèbre que l'impossibilité de communiquer avec les autres espèces avec lesquelles on partage la Terre est une situation tragique et une malédiction. Lorsqu'on lui demande ce que c'est qu'un mythe, il répond en effet. Si vous interrogiez un Indien américain, il y aurait de fortes chances qu'il réponde « une histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore distincts ». Cette définition me semble très profonde, car malgré les nuages d'encre projetés par la tradition judéo-chrétienne pour la masquer, aucune situation ne paraît plus tragique, plus offensante pour le cœur et l'esprit que celle d'une humanité qui coexiste avec d'autres espèces vivantes sur une terre dont elle partage la jouissance et avec lesquelles elle ne peut communiquer. On comprend que les mythes refusent de tenir cet art de la création pour originel, qu'ils voient dans son apparition l'événement inaugural de la condition humaine et non l'infirmité de celle-ci. Or, cet art de la création est en un sens une vue de l'esprit. La communication est possible même si elle est difficile, toujours sujette au malentendu créateur, toujours ourlée de mystères. Elle n'a jamais cessé de l'être, sauf pour une civilisation qui a défiguré les autres vivants en machines, matière régie par des instincts ou altérité absolue régie par des rapports de force. Si néanmoins la définition du mythe que Lévi-Strauss propose est la bonne, alors le pistage apparaît de manière énigmatique, comme une voie possible parmi d'autres, pour éprouver et accéder au temps du mythe lui-même. Cet état d'indistinction entre l'animal et l'humain, cette expérience métamorphique entre soi et l'autre, est en effet omniprésente dans le pistage. Pour comprendre la trajectoire de l'animal, il faut se mettre à sa place, voir par ses yeux. Retrouver les points clés, les convergences entre manières d'être vivant, par le suivi de l'animal dans ses traces. Retrouver la problématique, autrement vitale, en soi. Pour trouver le loup, enquêter en soi sur celles qui sont communes avec le loup. Chercher à sortir de l'allure vitale seulement humaine pour coïncider ailleurs. Se déplacer sur une sente, par exemple. Certaines sentes animales sont un lieu d'indistinction entre l'humain et l'animal, car on ne peut déterminer qui l'a creusé au premier coup d'œil. Une sente est souvent partagée, dessinée et creusée indifféremment par plusieurs espèces, dont les humains. Et c'est avec le même œil de frayeur de chemin, et pour les mêmes raisons, qu'ils les choisissent. Les sentes du cerf sont des chemins offerts, celles du sanglier deviennent exigeantes quand le couvert arbustif se densifie car elles sont basses, celles du chamois sont souvent trop verticales, lui qui vit comme l'oiseau en trois dimensions, les verticales étant aussi naturelles que les horizontales, celles du loup sont des voies optimales pour arpenter.
Oh, très bien.
Il y a un chapitre dans Vie de forêt qui s'appelle « Vie sauvage » et qui commence simplement par le fait de partir et de marcher en silence. Parce qu'on, le fait de l'expérience de marcher et d'être attentif et de faire attention, on se pose dans ces cas-là beaucoup moins la question de « est-ce que je suis dans un monde humain ? Il y a le monde des animaux, etc. » Non, on essaie d'être... De comprendre ce qui se passe. Il y a des choses qu'on comprend, il y en a d'autres qu'on ne comprend pas. Mais finalement, c'est vrai aussi dans les relations qu'on peut avoir entre humains. On ne se comprend pas tous complètement. Donc, alors, c'est partir et marcher en silence, en faisant le moins de bruit possible, le regard portant loin devant et en même temps vers ses pieds. À chaque pas, le coup d'œil automatique vers la petite zone du sol où l'on va poser le prochain pas. L'autre pied que celui sur lequel on repose un instant et qu'on a pris soin de poser déjà dans le meilleur endroit, sans brindilles, sans branches, sans feuilles mortes, ou le moins possible, ou alors c'est qu'il pleut ou a plu et que c'est mouillé. Et alors on sait que tout devient élastique, plastique, amortissant le poids du pied et du corps. Même les feuilles mortes mouillées ne font plus ce bruit crissé pouvant alerter. Même les brindilles ploient plutôt que rompent quand l'eau aide. Si le sol est sec, on cherchera toute zone d'herbe, de mousse ou de terre, ou alors des pierres suffisamment grandes pour ne pas faire gravier et crisser à leur tour. Cependant, si l'on n'a pas le choix, l'on passera sur le sol rocheux, mais alors très doucement, pour le moins possible faire bouger les petits blocs durs et glissants, posés doucement, talons pointe, talons pointe. Sur les chemins carrossés pour l'exploitation des bois, lesquels ici ne sont pas recouverts de bitume ou autres matériaux de route. Ici, les chemins sont carrossés avec la terre pierreuse, le grès ou granit rose gris. Sur ces chemins, donc, leur centre laisse l'herbe pousser, là où les roues des véhicules ne passent pas, et sur les côtés aussi. Et ce sont autant d'endroits herbeux où l'on peut poser un pied puis l'autre, en silence, espérer. Comme si notre cerveau se préoccupait de cela en pilotage automatique, car pendant ce temps, il faut regarder devant et autour, derrière même parfois. Il faut écouter et sentir, mais sentir, on n'est pas les meilleurs, nous les humains. Les bêtes en général sentent bien mieux que nous, et en particulier celles de la forêt, les non domestiqués, les sauvages. Cependant, nous pouvons sentir parfois si un cerf est passé là il y a peu. S'il n'est pas loin, si un ou plusieurs ont dormi ici. Mais la joute des odorats est très inégale, le cerf nous sent à 300 mètres. Approcher ce qui nous fuit, c'est l'un des motifs de la marche ici, pour moi, comme pour le chasseur qui est Mathieu et que je ne suis pas. Mais il y a là un même besoin, une envie, une curiosité attisée qui devient récompense lorsque l'on voit, lorsque l'on entend, l'on sent, lorsque l'on capture un instant l'image d'un animal ou un son, une odeur, une trace, un indice qui sinon nous échapperait si l'on n'était pas concentré, silencieux, replié, en retrait, caché, comme seul. Et pour évoquer ces mondes animaux parallèles au monde humain, ou tout le tout formant un monde en soi, je citerai une paysanne dont je parle souvent dans le livre qui s'appelait Michel, qu'on appelait la Michel parce que c'était un personnage de la vallée. Et c'est dans le chapitre qui s'appelle Le chat, où d'ailleurs à un moment je me mets à la place d'un chat qui s'est perdu dans cette forêt, qui est d'ailleurs le premier... mon premier livre, voilà, qui s'appelle L'année du chat. Alors, là, ça commence comme ça. « Il faut penser truite », disait la Michel. « Le pêcheur, le chasseur, doit pouvoir s'identifier soit à une truite, soit à un chevreuil, à un lièvre, un sanglier. Il faut se confondre avec la nature. Il faut penser truite à la pêche. Autrement, c'est la pêche quasiment idiote. » Bon, je ne vais pas rentrer dans le... Je passe un peu plus loin. Et il est question d'un chat. Vous êtes chat, vous avancez autour de cette maison, sur la piste d'une odeur, d'un son, d'un mouvement, tout indice d'une proie possible, car ici, considérables sont les occasions d'être à l'affût et de suivre insectes ou mulots ou oiseaux détectés par l'ouïe, l'odorat ou la vue. Vous progressez lentement près de la maison, le corps aplati, la queue et le dos qui réagissent en se hérissant. Vous cheminez dans votre paradoxe habituel, ce mélange de prudence et de témérité, de connaissance du territoire et de nécessité de l'agrandir en chassant. C'est un jour du début du mois de mai. Bon, je ne peux pas lire tout parce que c'est toute une histoire de suivre ce chat. Pardon.
Très bien. Messieurs de la cabine, on aimerait entendre le document sonore G La vallée des druides.
Dans les Vosges, il y a la vallée des druides. Dans le temps, ils allaient chercher du gui, mais sur des chênes. C'est très rare sur des chênes de trouver du gui. Et j'ai un copain d'ailleurs qui fait une cérémonie. Moi, je ne le fais pas, mais il y a tout un rite. Ah ben parce que le gui, coupé avec une serpe d'un certain métal, plutôt en eau, tant qu'à faire, et a des propriétés que n'a pas le gui, coupé à une autre saison, à une autre lune, à un autre jour. C'est une espèce de magie blanche, ce sont des rites très anciens, qui sont peut-être justes et qu'on redécouvrira peut-être plus tard.
Je peux réagir tout de suite ou tu veux
vas-y. Non mais
c'est
vas-y,
juste que j'ai, parce que c'est druide, le mot oui, druide, vas-y. Ça m'a fait penser vas-y. Donc à un moment mm-hmm. où on va voir un arbre qui est sûrement l'arbre le plus vieux de la forêt, qui est une sorte de hêtre comme ça, qui a plusieurs centaines d'années. Et le chapitre s'appelle Le Temps. Et ça commence comme ça. Nous marchons sur des fossiles et les arbres sont des horloges. Dans leur tronc, les années clairement affichées. Dans leur silhouette, chaque saison, les arbres sont le temps. Quel est celui des arbres de cette forêt qui tient le compte depuis le plus longtemps ? Est-ce le hêtre que nous allons voir rituellement depuis des années, depuis les enfants tout petits, cet arbre au bout d'un plateau où les hêtres sont nombreux et grands, dressés sur un sol presque plat et tapissés en toute saison de feuilles sèches rouge-marron, tapis feuillus, épais, scandés ici ou là de rochers recouverts de mousse vert intense, jonchés aussi d'épaves, ces longs vieux hêtres momifiés sur pied ou au sol par des champignons durs comme du bois, grosses corolles greffées sur leur fût. Le hêtre visité est plus loin, à la limite de ce plateau, juste avant un groupe de gros rochers faisant plateforme et le faisant si bien qu'on dirait une construction. Un endroit prisé par des druides ou autres religieux. Le hêtre est là, pas haut du tout, large en sa base, mais s'amenuisant vite, avec, pendant des années, deux longues branches, épaisses, faisant bras, sur lesquelles les enfants, les nôtres et ceux amis, William, Jeanne, Margot, Lily, Mathieu, Juliette, Alice, Anjuna, Thelma, Julia, Lucie, Jeanne, Olivier, Antoine, Camille, Victoria, se posaient assis, couchés, s'accrocher en grappe ou en ligne sur les deux longs bras entièrement recouverts de mousse comme pullover. Silhouette du hêtre, tel un arbre de conte, comme un personnage important qu'on visiterait.
C'est magnifique. C'est magnifique. J'avais fait particulièrement attention à ce passage. Alors, ça va enchaîner très bien. Ça va s'enchaîner très bien. Voici un autre extrait du livre de Jean-Christophe Bailly, Le versant animal. Les dieux sont là. La formule par laquelle Vilamovitch chercha à caractériser la consistance particulière du divin dans le monde grec ancien, on aurait envie de l'appliquer à la présence des animaux dans la nature, du moins dans les contrées où ils sont encore assez nombreux pour qu'on puisse avoir l'impression d'être chez eux dans l'enchevêtrement de leur territoire. Une présence est comme une imminence qui n'a pas besoin de se montrer pour être, qui se manifeste au contraire d'autant mieux qu'elle se cache, se retire ou survient. Mais que cette présence soit ainsi, à la fois massive et diffuse comme dans les réserves d'Afrique équatoriale ou clairsemée, raréfiée comme elle l'est dans nos campagnes, encore que souvent la nuit renverse quelque peu la mise et lui rende sa force, surtout par l'entremise des sons, toujours elle aura pour nous quelque chose de lointain, non seulement ce qui n'est pas là, mais ce qui se dérobe, se refuse. Les dieux qui sont là s'en vont. Ils ne nous veulent pas parmi eux, près d'eux, ils ne veulent pas de nous. Certains restent immobiles ou passent sans s'enfuir, un pas vide, indifférents. Seuls les plus gros et les plus forts peuvent se le permettre. Mais la plupart d'entre eux s'en vont, s'enfuient, détalent ou s'envolent.
Très bien.
Je pense en plus que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est je pense que la mythologie antique est de cette sorte-là. Et vraiment. Elle repose réellement sur du vécu, c'est-à-dire que c'est pas la divinité abstraite du monothéisme judéo-chrétien, qui est par nature le dieu qui n'existe pas, et c'est tout l'intérêt de la chose. Il s'agit de dieux qui existent vraiment, c'est-à-dire que les gens les ont rencontrés, ils sont descendus sur les bords de l'Etna, ils ont entendu.
Moi, ça m'évoque.
Ils ont dans la forêt, ils ont entendu, ils ont rencontré, ils furtivement, ils ont. Oui.
Non, ça m'évoque le texte de Bataille, Lascaux ou La naissance de l'art, oui. Où quand toutes les réflexions de Bataille sur pourquoi est-ce que ce sont d'abord des corps d'animaux que l'homme se met à représenter quasiment avant sa propre représentation, ou en tout cas la représentation la plus élaborée au départ est celle des animaux, et ce rapport à la fois d'identification, puisque être vivant, être qu'on peut tuer, qu'on chasse, qu'on se permet de tuer, tout le rapport à la mort, à la sexualité, au jeu, à l'art. C'est sûr qu'il y a un rapport aux animaux qui a quelque chose presque de fondamental. Moi, par instinct, d'une certaine façon, si j'ai fait ce texte, Vite Forêt, que j'avais en tête depuis... Enfin, pas, j'avais pas ça en tête, j'avais l'idée, l'envie comme ça de faire un texte. C'est que instinctivement, sans être dans une démarche aussi, du tout aussi intellectuelle que celle de Jean-Christophe Bailly, par exemple, je sentais bien que le fait d'éprouver ma connaissance concrète, en fait, d'une certaine manière, pouvait matériellement nourrir comme ça un rapport qui a des dimensions qui dépassent totalement ce que je raconte éventuellement dans ce livre, ou l'expérience que chacun peut faire du fait de marcher dans une forêt, de rencontrer des animaux, d'approcher ces êtres qui nous sont à la fois semblables, puisqu'ils naissent, ils vivent, ils meurent, comme nous, et à la fois différents. Et c'est vrai qu'il y a tous ces mythes, toutes ces religions.
Mais je dirais qu'on peut inverser le propos, que c'est aussi un propos qui mériterait de passer au journal de 20 heures, puisque les gens regardent la télévision, et qu'on a quand même cette menace, cette urgence qui est là. Par exemple, l'absence de moineaux à Paris a une force beaucoup plus grande que la présence des moineaux à Paris. C'est-à-dire, quand on allait à la gare de l'Est, moi qui pendant 25 ans ai pris le train tous les 15 jours à la gare de l'Est, les moineaux étaient sur la table. Je me souviens d'un garçon qui en avait écrasé un, et qui était un garçon de café, qui était très malheureux parce qu'il venait d'écraser un moineau. Et donc cette absence est totalement une urgence. Et de la même façon, on va aimer les cafards. Ouais. Moi, j'ai travaillé à Abidjan, par exemple, donc on s'habitue très bien aux cafards, on vit avec eux. Ou j'ai habité dans un hôtel meublé à Nice, là aussi, il y avait énormément de cafards. Et c'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est leur absence, c'est pas du tout la présence.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc, c'est
la question de la disparition.
Ton livre est d'une urgence absolue. Je veux dire, c'est une lame de fond, et il a une potentialité énorme. Un peu comme l'anabase de Xénophon nous parle de l'actuelle guerre en Ukraine, ce livre nous parle de ce qu'on va avoir demain aux actualités tout le temps. C'est-à-dire que quand les jeunes gens ont bloqué le pont à l'île de la Cité pour extinction, rébellion et tout ça, que les flics ont été tapés dessus, l'aberration nous paraît beaucoup plus grande que d'habitude. Ça nous paraît vraiment, c'est notre animisme qui revient. Et moi, je suis animiste, donc je suis un païen. J'ai très peu de rapport au monothéisme, donc c'est pas très compliqué pour moi. Mais c'est l'avenir, il est là, bien sûr, qu'on va avoir des adorateurs d'un brin d'herbe. Il n'y a pas le choix, puisque chaque fois qu'on marche dans la rue... J'écris un livre il y a 25 ans, dans lequel j'étais extrêmement... L'aspect qui me faisait le plus souffrir, que je décris dans ce livre, il s'appelle Maman, ce livre, c'est l'artificialisation des sols en ville. C'est le goudron posé par terre quand on marche, pour quelqu'un qui a grandi avec des pierres, des pavés sous les pieds. Je suis un citadin. Et donc, je vais bien sûr adorer le brin d'herbe, je vais adorer le petit cours d'eau dans le caniveau quand je sors de chez moi, sur lequel un ticket de métro flotte, parce que c'est de l'eau, parce qu'elle bouge. Donc je vais rendre un culte à l'eau. Donc ton livre, tu dois le défendre comme quelque chose qui est extrêmement urgent, qui porte l'avenir, qui ne décrit absolument pas le passé, comme Xénophon lui-même d'ailleurs.
Alors, comme on arrive à la fin de l'émission, qu'on n'a pas tout à fait fini, on n'a pas parlé de la route. La route qui est à la fois, on pourrait dire, dans la forêt, est une blessure, mais elle peut être en bordure, elle peut être une protection, parce qu'elle permet d'avoir accès, de contrôler dans une certaine mesure la domination, le règne absolu de certaines espèces qui peut se produire, être extrêmement destructeur, des choses comme ça. Donc la route éventuellement peut parfois sauver la forêt. On passe un dernier morceau, Monsieur de la Cabine, donc le numéro 3, Autobahn de Kraftwerk.
Voilà, merci de nous avoir écoutés. Nous étions dans La vie est un roman sur Allegre FM 93.1 avec Jean-Michel Yeut et nous avons parlé du livre de Karim Mirmont qui s'appelle Vie au pluriel de forêt et qui est paru à l'Atelier Contemporain il y a un mois ou deux et je vous mettrai toutes les références. Donc vous aurez les références en ligne. Merci, à la semaine prochaine.